La semaine dernière, lors du congrès provincial de rentrée de l'AEFNB, Association des enseignants et enseignantes francophones du Nouveau-Brunswick, qui avait lieu au centre scolaire et communautaire Samuel de Champlain à Saint-Jean, plusieurs conférences ont été données, dont trois conférences inspirantes qui ont marqué les esprits des enseignants et enseignantes francophones. Nous allons donc revenir aujourd'hui sur les propos de Marc Black, Pierre Lavoie et Corneille. La première conférence a été donnée par Cornelius Nyungura, dit Corneille, auteur, compositeur et interprète germano-rwandais naturalisé canadien. Retiré de la scène musicale, il se consacre désormais à la conférence pour partager son histoire marquée par sa vie en Allemagne, le génocide rwandais, l'exil et sa reconstruction au Canada. Devant les enseignants, Corneille a livré un message essentiel, reconnaître avec humilité nos propres biais et préjugés.
Toujours avoir assez d'humilité pour comprendre qu'on a des biais, qu'on a des préjugés, qu'on a des a priori. Le fait de savoir qu'on en a tous déjà, je pense que ça allège les choses pour soi, parce que ça, c'est un petit peu le tabou, hein, on voudrait avoir tous les défauts sauf celui-là. On ne veut pas être la personne qui n'est pas ouverte d'esprit, on ne veut pas être raciste, anti-ceci, anti-cela. Et pourtant, on l'est tous, quoi. On a tous une partie de nous qui a peur de l'autre, et malheureusement, c'est une partie qui est éduquée. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas choisie, on l'a apprise, on nous l'a apprise. On va tous à l'école. Dès qu'on vient au monde et qu'on commence à développer une conscience, on est tout de suite dans l'école de l'endoctrinement politique, qu'on le veuille, qu'on le sache ou non. On arrive très vite à l'âge de 20 ans en pensant savoir à quel groupe on appartient et quel groupe est notre groupe, est le groupe qui s'oppose à nous. Donc on est tous dans le même bateau en fait par rapport à ça. Par rapport à ce sentiment de devoir se protéger, attaque avant d'être attaqué, hein, ce concept-là. Donc à partir de ce moment-là, je pense qu'on enlève ce tabou, ça allège les choses, et là on peut dire les vraies choses, et on peut se dire que il faut surtout être conscient de ses propres a priori envers l'autre. Et une fois qu'on en est conscient, il devient moins lourd à porter, prennent moins de place. Et ça laisse de l'espace justement à une ouverture qui permet de voir l'autre comme son extension, comme juste un homme, une femme, quelqu'un qui peut potentiellement nous augmenter, nous apprendre un truc ou deux, nous divertir de son histoire, puis enrichir la nôtre. Et je pense que c'est ça. Je suis toujours obligé de raconter mon histoire pour montrer à quel point j'ai galéré avant d'arriver à cette conclusion-là. Mais aujourd'hui, plus que jamais, je pense que ça s'avère vrai. J'ai jamais vu autant de divisions exprimées. Il y a toujours eu des divisions. Mais la division exprimée avec conviction, je pense que c'est un nouveau phénomène à cette échelle-là. Ça ne me fait pas peur. Je sais que l'être humain est en constante évolution. Je dis ça, puis en même temps, je vois de très, très belles choses. Et d'ailleurs, je suis toujours très étonné de voir que tout part pas en sucette, parce que c'est pour ça que je parle de division exprimée. Je pense que on le dit beaucoup plus, on en parle beaucoup plus que ce qu'il y a dans nos vies intimes, parce que sinon le monde serait un chaos total. Et pourtant ça ne l'est pas. J'ai l'impression que la plupart du temps les gens que je rencontre mènent des vies plus ou moins normales. C'est pas le chaos total, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Beaucoup de nervosité, mais beaucoup plus liée à des conditions économiques, pas de boulot, coût de la vie qui monte et tout ça, et beaucoup moins avec ces divisions-là, justement. Donc j'ai espoir, tout est possible, et le monde s'en va davantage vers ce genre de rencontres que l'inverse. Je suis persuadé que dans quelques années, tout le monde va être en train d'essayer de chercher pour se rappeler d'où il vient à la base. C'est-à-dire, ça fait partie de l'évolution de la même manière que l'être humain est passé de marcher le dos penché à s'élever, à devenir erectus. Bah, de la même manière, la souche d'origine, elle va se perdre de plus en plus. Donc ça, c'est la force des choses.
Après ce témoignage puissant de Corneille qui nous invitait à cultiver l'humilité et à reconnaître nos propres biais pour mieux accueillir l'autre, la deuxième conférence avait un message complémentaire. Pierre Lavoie, triathlète québécois spécialiste de la distance Ironman et cofondateur du Grand Défi Pierre Lavoie, a pris la parole pour rappeler l'importance de la persévérance et de la mobilisation. À travers son parcours d'athlète et son engagement pour la santé et l'éducation, il a démontré comment les épreuves peuvent forger notre caractère.
Je dis aux gens que l'inconfort nous rend plus fort. C'est aussi simple que ça. Donc, le défi ou l'épreuve qui est devant vous, confrontez-la. Faut pas l'éviter, faut la surmonter. Après, faut se dire c'est un bout qui est pas le fun parfois, mais qu'après on va apprendre des choses là-dedans. Puis c'est vrai. Quand on fait ça à chaque fois, on développe un genre de pattern. Et quand tu vas être capable de le réappliquer partout ensuite là, c'est vraiment spécial parce que vu que je faisais des Ironman, puis le dans un Ironman, c'est qu'il ne faut jamais abandonner si tu veux traverser la ligne. Puis durant la course, il y a au moins 15 à 20 moments où tu es découragé, ça va pas comme tu voudrais. Mais quand tu traverses la ligne, tu dis, OK, wow, ça valait vraiment la peine. Donc, quand tu t'appliques ça dans ta vie au quotidien, tu te rends compte que ça fait les mêmes effets. Là. Ça valait la peine de confronter l'épreuve, le défi. Puis ça t'a rendu plus fort. Aujourd'hui, je dis pas que je suis inébranlable, mais mon arbre a beaucoup de racines. Il peut vanter très fort avant de me déstabiliser. Donc, ça m'a forgé. Ça a forgé ma personnalité, là, les épreuves. La persévérance, ça a tout le temps été cette valeur-là qui m'a habité. Quand je faisais du sport, ça m'a tout le temps rapporté, tout le temps, à chaque fois. J'ai jamais été déçu par cette valeur. Par la suite, la mobilisation. J'avais compris que pour faire avancer une cause, une mission ou une chaloupe, si tu en deviens le capitaine, tu as besoin de rameurs. Donc, tu dois mobiliser les gens à ramer. Quand je m'adresse à vos enfants dans les écoles, je leur dis, vous savez, la persévérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne jamais abandonner. Bon. Donc, je leur explique que toi, tu as de la misère en sciences, puis tu as de la misère en maths, tu vas abandonner, tu trouves ça difficile, l'école. Depuis ton secondaire 1, ça n'a jamais été facile. Ton meilleur ami, à côté de toi, lui, ça a toujours été facile, les sciences puis les maths, puis les matières. T'arrives en secondaire 4, on sait que c'est une période hyper importante pour la suite des choses. T'as toujours de la difficulté. T'as des échecs, t'as des réussites à l'occasion. T'es supporté par tes parents, par tes enseignants. T'as le goût d'abandonner, mais t'abandonnes pas. Tu continues. Finalement, tu finis par obtenir ton diplôme en secondaire 5 avec très grande difficulté. Puis ton meilleur ami, lui, reçoit son diplôme avec mention. Quand les deux vont venir appliquer au grand défi Pierre Lavoie, lequel des deux je vais embaucher? Le persévérant. Parce que pour bien réussir sa vie, on dit que ça prend au moins 200 outils dans ton coffre. Puis être bon à l'école, c'est un outil. Il t'en manque 199 autres. Par contre, l'outil de la persévérance, c'est un outil qui va te servir dans toutes les conditions. Et les gens persévérants, eux, ils ne baissent jamais les bras. Donc, mes dossiers les plus difficiles, je le donne toujours aux persévérants parce que je sais qu'il a développé cette compétence dans la difficulté. Donc, je leur dis, finalement, avoir de la misère à l'école, c'est une bonne nouvelle. Tu es en train de développer ton outil le plus important de ton coffre. Par contre, tu ne dois pas abandonner pour la développer. Là, ils comprennent que c'est normal d'avoir des difficultés. Ça forge ta personnalité. Puis plus tard, tes notes, on ne les regarde plus. On regarde quel genre de personne que tu es. Puis si tu me poses la question, tu es quoi comme personne? Je suis un persévérant. Je dis, OK, je vais t'avoir dans ma chaloupe.
Après l'appel à la persévérance et à la mobilisation lancée par Pierre Lavoie, la dernière conférence a donné la parole à Mark Black. Né avec une malformation cardiaque grave, il a subi une grève du cœur et des deux poumons à seulement 22 ans. Et contre toute attente, il est devenu marathonien à 4 reprises et conférencier. À travers son parcours unique, il est le premier et le seul homme à courir un marathon avec le cœur d'une autre personne. Mark Black transmet un message puissant, transformer l'adversité en moteur.
Moi, mon expertise, c'est la résilience, puis je trouve que de plus en plus, c'est ça que ça prend dans la vie quotidienne de tout le monde, mais surtout dans la vie des enseignants-enseignantes. Ils sont bombardés avec des demandes, puis ils avons moins en moins des ressources, des fois, pour endurer. Puis aussi, c'est qu'ils vont donner l'exemple à nos enfants. Et puis, nos enfants grandissant dans le monde, jusque la résilience va être demandée beaucoup parce que si tu veux pas, ça change beaucoup. Et il faut être capable de surmonter les obstacles puis de poursuivre notre chemin malgré les défis. Et c'est vraiment ça. Moi, pour moi, la résilience, c'est pas nécessairement de rebondir, mais c'est de grandir, d'agrandir parmi nos obstacles.
Pour développer cette résilience au quotidien, Mark Black dit qu'il faut apprendre à la pratiquer à travers certaines étapes concrètes.
La première, c'est d'accepter. Il faut comprendre et là, pratiquer que il y a des aspects de nos journées, de nos circonstances, de notre environnement qu'on ne contrôle pas. Que ce soit le gouvernement, que ce soit COVID qu'on vient juste de passer, que ça va l'intelligence artificielle qui s'en vient, n'importe quoi. Et puis, si qu'on essaye de contrôler ce qui n'est pas contrôlable, ben, on va gaspiller notre temps et notre énergie. Alors, c'est de lâcher ce qu'on a pu lâcher pour que on puisse dévouer plus de nos ressources à faire les changements qu'on a besoin de faire. Qui nous amène à la deuxième étape, qui est d'adapter. T'sais, qu'est-ce qu'on a besoin de changer? Comment est-ce que j'ai besoin de changer mon mentalité, la manière que j'agis pour pas non survivre, mais de vivre une belle vie dans un environnement qui change tout le temps. Là, c'est la troisième étape, c'est qu'est-ce qui est notre objectif? Hein? C'est aspirer, je dis. Qu'est-ce qu'on attend de faire? Qu'est-ce qui va nous motiver? Qu'est-ce qui est la raison pourquoi on va continuer de faire l'effort qu'on a besoin de faire? Et là, finalement, c'est d'agir. So, qu'est-ce qui est les étapes? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, demain, après-demain? Des petites étapes pour améliorer mon circonstance.
D'après Marc Black, ces étapes ne sont pas figées. Elles nous invitent plutôt à rester souples et ouverts face au changement, puisque le monde dans lequel nous évoluons se transforme à une vitesse impressionnante.
C'est de maintenir la flexibilité, de l'adaptabilité, de ne pas être trop attaché à des telles manières de faire des telles choses, parce que notre vie, notre monde change assez vite. Puis, ceux qui vont avoir du succès, c'est eux qui vont être capables de s'adapter vite et de lâcher les vieilles manières et de s'adapter des nouvelles manières.
Ces trois conférences, bien que portées par des parcours de vie très différents, elles se rejoignent dans un même message inspirant. Ensemble, les témoignages de Marc Black, Pierre Lavoie et Corneille offrent aux enseignants et aux enseignantes une source d'inspiration. Accueillir la diversité avec ouverture, persévérer malgré les obstacles et cultiver la résilience. Le but dans tout ça, pouvoir transmettre à leur tour ces valeurs aux générations futures. C'était Loïne Gagnolet pour IGL à Saint-Jean.